Le masque et la plume. Le masque du jour est consacré à l'actualité de la scène et comme d'habitude, quatre critiques vont en débattre. Vous les connaissez pour la plupart, Fabienne Pascaud de Télérama, Pierre Lesquelaine de I.O. Gazette et de Détective Sauvage, Sandrine Blanchard du journal Le Monde et après le départ de Laurent Goumard à la direction des programmes de France Inter, merci d'accueillir un autre Laurent, Laurent Vallière, producteur de 42e rue, une émission dédiée aux comédies musicales sur France Musique. Après la présentation des participants, voici le programme. La grève du sexe menée par Ovidie qui adapte son texte « La chair est triste hélas » pour la scène. Une comédie intitulée « Made in France » de Samuel Valency et Paul-Éloi Forget. Cette rentrée théâtrale met aussi à l'honneur trois prix Nobel de littérature. Claude Simon, dont l'unique pièce « La séparation » est mise en scène par Alain Françon. L'auteur norvégien Jon Foss, dont le texte « Et jamais nous ne serons séparés » est mis en scène par Daniel Janto et Mamar Benranou, et la Biélorusse Svetlana Alexievitch, dont l'essai est adapté pour le théâtre par Julie Deliquet, sous le titre « La guerre n'a pas un visage de femme ». Enfin, pour compléter ce programme, un homme qui se rêve femme dans un film d'Almodovar, c'est Madame Fraise, seule en scène de et avec Marc Fraise. Bonjour, bienvenue, voici le masque. Envoûtement, c'est le mot que Pierre a choisi pour annoncer son mail. Cher masque, grâce à toi, j'ai eu envie de découvrir le soulier de satin mis en scène par Éric Ruff. J'ai assisté à la dernière représentation dans la cour d'honneur du Palais des Papes en Avignon. C'était mon premier festival. Je te remercie de m'avoir incité à me lancer dans cette expérience unique, toute une nuit avec la troupe de la Comédie Française. C'était fantastique. Frédéric Pavlik, lui, a regardé la captation vidéo du soulier de satin 2025 sur France.tv, captation qui est d'ailleurs disponible jusqu'en juillet 2026. C'est extraordinaire, écrit cet auditeur, de voir comment un texte, aussi austère sur le papier, se transforme en enchantement par la magie de la mise en scène. Enfin, sur Instagram, j'ai reçu le message suivant que je vais vous lire en intégralité. Bonjour, je suis un vieux mâle blanc hétérosexuel. La preuve, je m'appelle Jean-Jacques. Une amie m'a traîné au spectacle d'Ovidie. La chair est triste hélas. J'avais pour projet de dormir et je n'ai pas fermé l'œil. C'est une femme qui fait la grève du sexe et les hommes en prennent plein la poire. Sur scène, Anna Mouglalis porte le texte toute seule. En sortant, l'audace m'a manqué pour demander « Elle n'était pas mannequin pour Chanel, Mouglalis ?» Pour me repentir de cette mauvaise pensée, j'ai flagellé mon torse nu en rentrant. Blague à part, la pièce m'a secouée. Aller au théâtre, c'est parfois penser contre soi-même. J'aimerais juste dire à Ovidie que l'amitié entre hommes et femmes est possible, et l'amour aussi. J'aimerais aussi vous écrire « Je vous embrasse », mais j'ose pas. Et cet auditeur a anticipé le programme, puisque nous commençons avec « La chair est triste, hélas ». Au départ, c'est un livre que l'autrice et réalisatrice Ovidie a publié il y a 2 ans. Et comme il a eu beaucoup d'échos chez des lectrices et lecteurs, Ovidie l'a adapté et mis en scène pour le théâtre. Dans ce texte, écrit à la première personne, Ovidie explique les raisons qui l'ont menée à faire la grève du sexe avec les hommes. Selon elle, la grève du sexe n'est pas qu'une question sexuelle, mais c'est aussi refuser des comportements masculins et féminins qui permettent, je cite, « la baisabilité des femmes », se maquiller, rester mince, s'épiler, tandis que les hommes seraient sans scrupules et d'une incompétence crasse. Le discours est concret, donc cru, saisissant, souvent drôle, et porté par Anna Mouglalis, avec sa voix grave, sa colère et son ironie aussi. Elle déambule sur le plateau devant des bandes de tissus sur lesquelles sont projetées des vidéos de consultations gynécologiques, des baisers de cinéma sans sensualité, ou encore des petites filles très maquillées pour des concours de beauté. Fabienne, qu'as-tu pensé de cette grève du sexe portée sur une scène de théâtre ?
Alors, je dois dire que j'y ai pris du plaisir d'abord, parce que c'est très drôle. Anna Mouglalis, elle a une voix d'homme, donc c'est un peu bizarre.
Quelle est une voix
mais c'est drôle, j'ai trouvé ça piquant, c'est bien écrit, c'est bien rythmé. Mais je trouve ça un peu caricatural quand même à la réflexion et un peu binaire. Parce que dire que nos relations sexuelles reflète le patriarcat, que toutes les femmes, finalement, à cause de ces méchants hommes, pleins de pouvoir, sont des mal baisées, soumises. Non, non, Madame Ovidie, il y a des hommes qui font très bien l'amour, ça existe aussi, et qui nous donnent beaucoup de plaisir, je peux en témoigner. Donc, la manière dont toute relation sexuelle hétéro et caricaturale est soumise à des relations de pouvoir, je trouve ça un peu bête. Et d'autant plus que dans les relations homosexuelles, il y a exactement les mêmes relations de pouvoir. J'ai trouvé les vidéos aussi, alors d'un côté, il y a les méchants gynécologues qui touchent un peu trop, les concours de beauté dont tu as parlé. Alors ça, c'est pour les femmes victimes. Moi, je déteste qu'on parle des femmes victimes, ça m'exaspère. Les femmes ne sont pas des victimes, ce sont des guerrières.
C'est pas comme ça que Anna Mouglalis porte le texte, et c'est pas ce que dit le texte, non?
C'est les vidéos. Et puis alors, côté homme, c'est forcément la guerre, c'est forcément des obus, je trouve ça un peu facile.
Pierre?
Moi, j'ai aimé ce spectacle parce qu'il surmonte, je trouve, pas mal...
Pierre, il était à côté de moi, il sautait de joie. Il s'est levé à la fin pour
applaudir. Je ne sais pas si je sautais de joie, j'étais à la fois percutée et j'ai ri aussi, parce que c'est un spectacle qui est assez drôle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écueils qui sont évités. D'abord, moi, j'avais très peur de l'embourgeoisement, en fait, de ce texte. On monte une pensée féministe radicale dans du théâtre privé. Et en fait, là, je trouve que Ovidie, elle se tient à une forme...
Il peut y avoir des choses bien dans le théâtre privé.
Mais bien sûr,
absolument,
mais il y a ce risque que le texte devienne moins percutant, moins incisif, moins radical.
En tout cas, il n'a pas du tout été lissé, là.
Absolument. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a un autre écueil qui est pour moi évité, c'est le fait que quand tout à coup on met une pensée comme ça dans un corps, quand on l'incarne, le risque, c'est que ça devienne une parole trop intime qui finalement perdrait son efficacité politique et un peu plus universelle. Et là, je trouve que c'est pas le cas parce que la voix de cette actrice, bon, c'est sa voix bien sûr, mais elle est assez inouïe, sa voix. Et on a presque l'impression qu'elle vient d'ailleurs que de son corps, que c'est un peu un fantôme, qu'elle se fond dans le décor. Et c'est comme si c'était une présence augmentée, amplifiée. Donc, en résumé, je trouve que cette transposition théâtrale, elle n'est pas d'une folle originalité, en fait, d'un point de vue vraiment esthétique, mais elle est très digne et elle est très juste, en fait, mais pour moi.
C'est comme si elle réfléchissait à voix haute, Anna Mouglalis, quand elle parcourt scène.
Ce qui est une qualité.
Parce que c'est une qualité. Et moi, je trouve qu'elle dégage un charisme et qu'elle a une interprétation un peu ironique qui fonctionne très bien et qui, effectivement, fait qu'à des moments, on rit. Après, bon, le constat, il est désespérant et désespéré. Enfin, vraiment, voilà, c'est les femmes soumises, les hommes dominants. Je suis d'accord avec Fabienne. Je trouve qu'à des moments, on est un peu dans la caricature. J'ai envie de dire à Ovidie.
C'est son point de vue, pardon.
C'est son point de vue.
Ah, mais
c'est
son expérience générale et politique.
Mais elle en fait effectivement un sujet politique qui va très très loin. Elle dit même à la fin que c'est strictement impossible de se réconcilier. Enfin, moi, je trouve qu'elle ouvre aucune porte. J'ai envie de lui dire, Ovidie, est-ce que tu as déjà été amoureuse? Est-ce que tu as quand même déjà trouvé un homme qui, à un moment donné, t'a donné du plaisir? Apparemment, non. Et je trouve ça désespérant. Mais voilà, enfin, on est tous à la recherche d'amour et d'affection.
Et de sensations.
Et de sensations. Et le constat qu'elle dresse, je trouve ça terrible. Je trouve que pour le coup, on devrait plus en être là. Enfin,
Et la salle est remplie de jeunes filles en extase.
90% de femmes, moi je me sentais un petit peu... moi j'apporte le male gaze, comme dirait l'autre.
Tu en es sûr? Tu apportes le male gaze?
Le male gaze.
Au diable.
Le regard masculin.
Oui, j'avais compris.
J'avais l'un... I know you speak English.
Là, c'est du mansplaining. Bref, allons-y.
Et j'avais l'impression, moi, d'assister à TEDx. À une conférence TEDx. En fait, c'est une démonstration. Et en fait, je ne vais pas au théâtre pour voir une démonstration. Le texte d'Ovidie, il est ce qu'il est, il est intéressant. Il y a des punchlines incroyables. Moi, j'adore quand elle dit ça a commencé par la grève de la pipe. Ça a commencé par la grève du simulé. Donc, on sent un vécu et on sent quelque chose de réel. Voilà, c'est un texte vraiment très bien écrit. C'est un plaidoyer, finalement, d'Ovidie. Mais en termes de mise en scène, pardon, c'est pauvre. Alors, elle a une voix formidable, mais tout est scandé par des projections vidéo. Donc, elle fait son petit texte, Et puis après, il y a une projection vidéo de 2 minutes qui illustre, alors effectivement, des fusées quand on parle de Viagra, effectivement, des gros plans sur la chirurgie esthétique quand on parle de chirurgie esthétique et du besoin des femmes d'être belles pour les hommes.
Tu as trouvé ça mécanique et un peu illustratif?
Ben oui. Pendant les vidéos, elle est assise, elle a l'air toute mélancolique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, pour les saluts, elle a levé le poing. Anna Moulalis. Et je me suis dit, ah bah ça y est, enfin, tu l'incarnes, ce personnage. Parce que pendant toutes les heures...
Il n'y a pas une recherche d'incarnation. Elle ne nous dit pas, je suis Ovidie. Elle passe le texte d'Ovidie. Ce n'est pas, pas ça, la recherche.
Oui, oui, elle est passeuse. Je suis d'accord.
Bah, il faut quand même l'incarner, ce personnage.
Non, il ne faut pas l'incarner. C'est pas elle.
Comment elle pourrait l'incarner, en l'occurrence, Laurent? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse?
Elle
taille des pipes en scène?
Non, mais je ne comprends pas le côté chien pleureur qui est assis pendant que les vidéos passent. En fait, c'est un texte revendicatif. Il faut être revendicatif pendant toute la pièce. Tout passe formidablement bien dans sa bouche. Elle dit des mots extrêmement vulgaires et ça touche le public. Mais je me disais...
Cru. Hein.
Bon, bah voilà, cru, merci. Mais voilà, c'est...
T'as pas aimé.
Je suis sorti de là et je voyais bien que le public était extrêmement enthousiaste pour une partie. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, c'était effectivement trop démonstratif.
La chère et triste, hélas, d'Ovidie avec Anna Mouglalis seule en scène, c'est au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et avec le succès, 2 dates ont été ajoutées. Donc les représentations se poursuivent jusqu'au 26 octobre. Ensuite, la pièce sera au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon les 28 et 29 novembre. Et jamais nous ne serons séparés, c'est le titre de la pièce dont on va parler maintenant. Elle est écrite par le Norvégien Jon Foss, prix Nobel de littérature 2023, dont d'ailleurs les textes sont joués sur plusieurs scènes en cette rentrée théâtrale. Celle-ci est intitulée « Et jamais nous ne serons séparés », elle est au théâtre de Gennevilliers. La mise en scène est signée par un duo, Daniel Janto et Mamar Benranou. Avant même que le plateau ne s'éclaire, on entend le rire d'une femme, jouée par Dominique Raymond. Elle est allongée sur son canapé, elle entend un homme entre exaltation et désespoir. Cet homme arrive, mais une fois présent, c'est comme si elle ne le voyait pas. Plus tard, une autre femme accompagnera cet homme, et entre ces 3 personnages, on ne saura jamais si tout ça relève du rêve ou de la réalité, du passé ou du présent. La langue de Jon Foss est faite de phrases courtes, parfois inachevées, répétitives, et Dominique Raymond passe par toute la gamme des émotions. L'homme qu'elle attend, c'est Yann Boudot, et la deuxième femme de la pièce est jouée par Solène Arbel. Sandrine.
Le soupir de Sandrine, non, qu'on connaît bien.
Alors, si moi j'ai trouvé ça à mourir d'ennui, j'ai passé 1h30 avec un ressenti de 4 heures. Je pense qu'il faut prévenir le spectateur. Tu dis que c'est répétitif, Rebecca, mais... Moi, j'ai eu la sensation d'entendre 6 phrases sans cesse répétées, un texte qui tourne en rond, tout le temps la même chose. Et maintenant, il va sans doute bientôt venir. Je sais qu'il va venir, puisque je l'attends. Et maintenant, sans doute, il va venir. Enfin bref.
C'est mieux dit quand même.
Oui, c'est mieux dit. Alors moi, je trouve pour le coup que Dominique Raymond, elle fait une performance, parce que je pense que malgré tout, ce texte n'est pas commode à apprendre, puisqu'il c'est un peu tout le temps le même, mais qu'il faut le donner effectivement sur toutes les gammes.
Et pas commode à jouer.
Voilà, il faut savoir qu'il se passe quelque chose quand un verre est cassé, sinon il ne se passe rien. Il y a le dépouillement du décor, la pauvreté du texte en vocabulaire, le jeu au ton monotone, tout est lancinant. Enfin, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai ressenti, parce que je suis sortie passablement énervée de ce spectacle. J'ai eu le sentiment d'une caricature du théâtre contemporain, mais vraiment, avec une complaisance dans les effets de style...
Prix Nobel de littérature, quand même.
Mais oui, mais ce n'est pas une raison de littérature, pas de théâtre.
C'est un auteur de théâtre, principalement.
40 pièces, il est principalement auteur de théâtre.
Mais excuse-moi, moi, j'ai trouvé ça d'un profond ennui et ça ne m'a pas hypnotisée. Ça m'a totalement crispé.
Pierre, es-tu détendu ?
Un inconditionnel de Jon Foss, d'abord, et puis de Daniel Janto, ici, qui est en binôme avec Mamar Benranou. Alors, je trouve qu'il prend un peu moins de risques, du point de vue de sa scénographie, que dans d'autres spectacles que j'ai vraiment admiré de lui, mais là, de eux, puisqu'ils sont deux. Mais je trouve qu'il y a un sens du travail, du texte. On l'a souvent réduit, Jon Foss, à un poème, à de la musique, et en fait, c'est une écriture très concrète, et je trouve qu'il rend le texte extrêmement vivant, pour moi. Après, en fait, moi, je connais bien Jon Foss, je suis un fan absolu de cette cet auteur. Donc le problème que j'ai, c'est avec ce texte-là. C'est-à-dire que c'est un texte de jeunesse, et je sens dans ce texte, pour moi, quelque chose d'encore un petit peu démonstratif. C'est-à-dire, on sent que ce qu'il va réussir à incarner dans ses futures pièces, c'est-à-dire ce paradoxe infini de la solitude humaine, qui est pour moi bouleversant, je trouve que là, ça reste un peu à l'état de
discours.
T'as été bouleversé ? Non,
ah,
pas
oui.
Par ce spectacle, justement, mais par d'autres textes de Yon Foss.
Ça dépend des représentations. Moi, j'ai été bouleversée.
Oui, pour moi, le texte ne m'a pas vraiment intéressée, voilà, je dois dire. Mais pour cette esthétique, je trouve qu'elle est vraiment passionnante et précieuse, et puis pour Dominique Raymond, qui, je trouve, mène ce texte vers, justement, le réel qui lui manque parfois, je pense que c'est un spectacle qu'il faut aller voir.
Laurent.
Bon, en fait, c'est une nature morte. Et en fait... Alors moi, j'aime pas les natures mortes. Mais en fait, c'est vraiment une nature morte comme il l'a imaginé, parce qu'effectivement, le décor, c'est... Il n'y a rien. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un baisser de rideau qui dure 5 minutes, pour lequel ils vont juste rajouter une table,
exactement,
deux chaises,
oui,
et deux verres. Je
vous dis,
waouh,
parce que là, moi, je me suis dit, il va se passer quelque chose.
Il va se passer quelque chose. Non, c'est le même décor.
Mais c'est un abîme entre
deux. Mais c'est un très beau verre.
Mais c'est vous qui caricaturez le théâtre contemporain.
Ah non, je caricature pas. Je vais vous dire, mon voisin a fait la meilleure réplique de la pièce. Parce que pour la 10e fois, elle disait, faut que j'arrête. Et mon voisin a dit, on est d'accord. Non, mais
c'est tellement facile de faire rire.
Mais
avec
non,
c'est un spectacle qui n'est pas efficace, qui demande une attention qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours.
Oui, mais Pierre, justement, il est d'une manière aussi
venir. L'homme, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, on ne sait pas. Il arrive et ils ont une discussion qui ne veut rien dire. Ils parlent de la pluie et du beau temps, et tout ce qu'il dit, c'est il faut manger.
C'est toi qui as entendu ça.
Il faut manger. Et je vous assure, en sortant, j'ai été au supermarché en face.
C'est un Lidl.
Justement, ça aide à comprendre,
Fabienne,
ce qu'il y a sous les mots.
Oui.
Ce vocabulaire un peu banal, ces actions prosaïques. C'est pas réaliste. Quand Patrice Chéreau avait tenté
c'est
de
banal
monter...
C'est banal et c'est pauvre comme vocabulaire. Hein. Excuse-moi, Fabienne, mais...
Mais c'est ce qu'il y a en dessous qui est riche.
C'est ça, c'est tout Fabienne. Ce que ça dit des profondeurs souterraines, de la douleur, de la souffrance, de la solitude.
Pas.
Mais on n'avance pas toujours quand on est malheureux.
Mais c'est une nature morte ou sorte où quand le rideau s'ouvre...
Ça raconte
et
la dépression.
Dans le noir déjà... Eh ben, à la fin, elle rit toujours et il n'y a rien à avancer. C'est dingue.
Mais non, mais on n'avance pas toujours, Laurent, dans la vie. On peut rester...
Bah, moi, disons qu'au théâtre, on a envie quand même d'être transporté.
Bah ça, c'est pas du Fédo, c'est sûr. Il n'y a pas de porte qui claque.
Oh non,
ça nous met dans
la... Vous allez jusqu'à
Fédo.
Moi, je trouve que la concentration où nous amène Daniel Jeannetot et son collaborateur nous aide même à entendre le silence quand on se laisse porter au-delà de nous-mêmes, justement par la banalité des choses.
Il y a un moment effectivement silencieux qui est le plus beau de la pièce. Que là, je me suis moqué. Après le fermé de rideau, et le rideau s'est relevé, et donc il y a une jeune femme qui est avec cet homme, c'est pas la même, et ils s'allongent sur le canapé tous les deux, ils sont enlacés, c'est un arrêt sur image, encore une nature morte pendant 2 minutes, vraiment, et là c'est magnifique. Mais en fait, la pièce tient en ces deux images, la première où elle rit, et là où on a compris qu'on a besoin d'être avec quelqu'un, c'est tout.
Il faut se laisser porter, il faut s'abandonner, renoncer.
Et jamais nous ne serons séparés. De Yon Foss, mise en scène par Daniel Jeannetot et Mamar Benranou. C'est au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 13 octobre avant une tournée qui passe par le quai à Angers en novembre. La Comédie de Valence en décembre, Annecy, Poitiers, Montpellier, Reims. Il y a des dates jusqu'au printemps et vous en trouverez le détail sur le site du Masque. Changement de registre avec Madame Fraise, F-R-A-I-Z-E, de et avec Marc Fraise. Le spectacle a été créé il y a plusieurs années et il reprend à la Nouvelle Scène avant une tournée jusqu'en juin prochain. Donc il y a Monsieur Fraise, anti-héros en pantalon trop court, et voici Madame, ou plutôt Monsieur, enfin bref, Marc Fraise dans tous les cas, vêtu ici d'une magnifique robe de soirée, avec gants roses et talons rouges, sans que jamais il ou elle ne soit grotesque. Madame Fraise est seule, face au micro, elle prend son temps pour nous regarder, pour se dédier au montage d'une fontaine zen, pour parler des affres de la vie de couple et laisser éclater sa colère en essayant de faire décoller un cerf-volant. Et la mise en scène est signée Alain Degois, dit Papy, un directeur d'acteurs, qui a découvert des personnalités aussi différentes que Jamel Debbouze, Blanche Gardin ou Sophia Aram. Pierre, c'est à toi.
Ben, moi, j'ai touché au sublime dans ce spectacle, sans carrément. Aucune ironie, et je ne pensais pas qu'un spectacle d'humour, qu'un spectacle d'humour me ferait toucher un jour au sublime, parce que je trouve que ce spectacle, il est évidemment hilarant, mais au sens, mais le plus littéral du terme. On voit des spectateurs et des spectatrices qui se tordent sur leur siège, ça fait tanguer la péniche sur laquelle on voit d'ailleurs le spectacle. Et puis, je trouve que c'est un spectacle magnifique, parce que c'est un très bon lien avec Yonfo, c'est un spectacle sur l'attente. C'est-à-dire que moi, je pensais, bien sûr que si.
Quatre fois mieux, quand même.
À un moment, ça accélère. Ça commence lentement, je suis d'accord.
Moi, je pensais, avant d'avoir vu ces spectacles, que Marc Fraisse était un humoriste de l'exaspération. Et en fait, pas du tout. C'est un humoriste de la sublimation. Ce qu'il incarne, c'est l'attente banale et à la fois très belle que quelque chose puisse se passer dans la vie.
En tout cas, moi, je n'avais jamais vu de spectacle où un artiste seul en scène joue à ce point avec la patience.
Oui.
Des spectateurs.
Complètement.
C'est même
et
un
moi,
sujet.
Moi, je trouve qu'on touche.
C'est l'exaspération.
On rit, mais on ne sait pas très bien de quoi on rit. On rit de notre propre vanité humaine, parce que ce qu'on regarde à travers lui ou à travers elle, on ne sait jamais très bien, c'est nous-mêmes, c'est notre propre attente. Non, je trouve que vraiment, pour moi, c'est un très, très beau spectacle.
Fabienne.
Alors moi, franchement, ce comique étiré avec des longueurs invraisemblables, des phrases débiles du genre « c'est bon de rire, c'est bon de rire », cette gentillesse affichée, ces gags à la mort moelleuse, c'est le cas de le dire, là je fais mon Ovidie, c'est d'une gentillesse, d'une candeur. Mais moi j'ai envie d'être méchant, j'ai envie d'être cynique, j'ai envie de taper quand je vois ça. Vraiment de cogner.
L'humour, ça peut être aussi de la délicatesse.
Ah oui, non, mais pas comme ça. Ah, là, c'est de l'ennui rare.
C'est une bulle de plaisir dans un monde de brutes. Ça fait un bien fou d'aller voir Madame Fraisse. C'est une parenthèse.
Sauf si on est exaspéré, comme tu l'as été pour le Yonfo. Moi, c'est Madame Fraisse.
Et ce qui est incroyable, moi, j'ai découvert ce spectacle une première fois au Théâtre du Rond-Point, dans la grande salle. Et là, il est sur un tout petit plateau dans la péniche, et ça fonctionne. Et ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est qu'il a été obligé de faire plus court, et je vous assure qu'il avait un passage sur le rangement des couverts dans le lave-vaisselle qui était à mourir de rire.
C'est ce qui a manqué à Fabien, je pense.
Ouh là là, c'est de la popoésie.
Moi, c'est un clown contemporain, il est d'une expressivité formidable, enfin, je veux dire, sa gestuelle, son visage, son sourire. Fabienne, je peux comprendre qu'on puisse ne pas rentrer dans... Il faut rentrer dans l'univers de Madame Fraisse.
Il faut se laisser porter.
Il faut se laisser porter. Mais franchement, c'est un hymne à l'amour, aux petites choses de la vie. Je trouve ça inventif. Et puis surtout, ça nous... Enfin voilà, ça nous emmène ailleurs que dans le stand-up. C'est pas du stand-up,
oui,
c'est complètement
en même temps,
autre chose.
C'est aussi assez grinçant et mélancolique.
C'est très mélancolique.
Pas que ça. C'est grinçant dans le. Il est bon de rire parfois. C'est très ironique.
Je l'ai fait au premier degré. Moi,
alors effectivement, ça met 20 minutes pour démarrer. Surtout que Yves dit en plein milieu de ces 20 minutes. Allez, on va faire une petite pause.
Mais ça met.
Ou alors on va passer un long moment ensemble. Et donc, alors ce qui est drôle, c'est que. Il m'a fait penser à Denis Fabre. Parce qu'il avait les cheveux mi-longs, et alors comme il rate son entrée, et ça dure 20 minutes, il fait des sourires un peu niais, où il dodeline de la tête, où il fait des grands yeux. Et en fait...
Denis Fabre, précise.
Denis Fabre, l'explique. Bah oui. Et
mais
je trouve... Mais n'était
pas né quand il y avait Denis Fabre, Laurent.
Poursuivre.
Ancienne speakerine, voilà. Et en fait, je trouve qu'au fur et à mesure, il dépeint un portrait doux d'une jeune femme au foyer qui vit en région, qui monte à Paris. Et en fait, elle est tellement ironique. Elle parle de sa vie de couple. Alors elle dit, oui, mon mari... On sent bien qu'elle aime son mari, mais elle met quand même la
haute... Sa femme, on ne sait pas.
Oui, parce qu'on ne sait pas s'il dit il ou elle. Ouais. Elle met la haute sur quatre, quand même, dès que son mari commence à parler. Parce que comme ça... Il entend, mais il n'écoute pas, en fait, ce qu'elle dit. Et en fait, je trouve que ça fait un portrait... très tendre, d'une jeune femme, un peu raciste sur les bords, elle part des Portugais, qui essaye de se faire une jolie vie. C'est pour ça que je suis d'accord avec Sandrine quand elle dit c'est un spectacle délicat, c'est un spectacle tout en petites touches pour dépeindre une femme d'aujourd'hui. Voilà, c'est un portrait vraiment drôle et très touchant de cette femme.
Et c'est la meilleure version de la chanson « Une femme like you ».
De Camaro.
Madame Fraise, de et avec Marc Fraise, dans une mise en scène de Papy. C'est sur la péniche de la Nouvelle Scène les 21 et 28 octobre, avant une tournée dans toute la France, qui passera par Mont-Saint-Aignan en novembre, Chasse-sur-Rhône en décembre ou encore Famec en mars. Pour la suite de ce masque dédié à l'actualité de la scène, nous allons parler maintenant de La Séparation, seule et unique pièce de Claude Simon, prix Nobel de littérature, le deuxième de ce programme. Il y a pile 40 ans, la pièce est mise en scène par Alain Françon. Nous sommes dans la France des années 50, dans une maison qu'on imagine vaste, mais le décor qu'on a devant nous est uniquement composé de deux cabinets de toilettes disposés symétriquement de chaque côté d'une cloison. D'un côté, à Jardin, on assiste au déchirement d'un couple, Louise et Georges, Georges étant le fils de la maison. De l'autre côté, comme un reflet inversé, on assiste au déchirement d'un autre couple, celui des parents de Georges. Le texte de Claude Simon est fait d'images très précises, de flots de paroles pour certains personnages, face au silence des autres. Alors la séparation, c'est à la fois cette cloison qui divise le plateau en deux, mais c'est aussi les ruptures, amoureuses ou non, que vivent chacun des personnages. Le couple des parents est joué par Catherine Yégel et Alain Libolt. Leur fils Georges et sa femme sont interprétés par Pierre-François Garel et Léa Drucker. Catherine Ferrand est une infirmière qui donne des nouvelles de la tante de Georges. Et cette tante est invisible, mais sa mort imminente hante chacun des personnages. Laurent.
Mais j'ai vécu un énorme moment de bonheur. Alors avec un bémol, mais en fait, la pièce est lumineuse déjà. Le décor est lumineux. Ces fenêtres avec ces petits bruits d'oiseaux et cette luminosité derrière les fenêtres. On a ensuite ces deux couples qu'on va découvrir l'un après l'autre. Et surtout, on a la maman de Georges.
Interprétée par Catherine Yégel.
Alors, il y a la langue de Claude Simon qui est extraordinaire. Mais surtout, il y a l'interprétation de Catherine Yégel. Là, moi, j'ai vraiment vu un numéro d'actrice extraordinaire. Parce qu'on voit tout. Elle est un peu âgée. Et on vit à travers elle tous les doutes qu'une femme un petit peu âgée peut avoir, par exemple envers son mari, le fait d'avoir gâché sa vie, parler de sa vieillesse, peut-être son mari la trompe, elle a des tentations un peu de prendre un peu de cognac qu'elle appelle son parfum. Enfin, il y a un numéro d'actrice de Catherine Yégel qui est absolument extraordinaire. Le mari, Alain Libolt, on le voit quasiment jamais, mais il apparaît comme ça par petites touches. On voit bien qu'elle a besoin d'être rassurée par lui. Et à côté, il y a l'autre couple. Et là, c'est un peu mon problème. C'est que Léa Drucker, moi, je n'y crois pas du tout lorsqu'elle prend la langue de Claude Simon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle déclame. En fait, c'est une femme quand même qui est en train de préparer ses bagages pour partir. Et en fait, ce côté-là m'a fait un peu dévier de la pièce. J'ai trouvé que c'était complètement déséquilibré. Donc, en fait, la première partie qui est le long échange entre le premier couple, Léa Drucker, et Pierre-François Garel, est un peu déséquilibré.
Ah bah, il est interminable.
Et dès que Catherine Yégel apparaît, tout d'un coup, mais c'est un feu d'artifice, quoi. Elle est juste extraordinaire.
Effectivement, en fait, pour moi, on ne retient que Catherine Yégel et cette scène incroyable de femme jalouse et qui va être de plus en plus saoule, puisqu'elle va, tout va sortir à force de boire du cognac. Et cette scène, elle est
hallucinante.
Vraiment, Catherine Yégel est une immense actrice. Mais en dehors de ça, enfin, on attend la mort de la tante, et moi, j'attends que ça se termine. Enfin, franchement, Léa Drucker, je trouve que elle a un personnage où c'est compliqué ce qu'elle a à défendre, quand même. Et l'écriture, moi, je trouve que c'est une écriture qui est difficile à l'oral. Je pense qu'il faut mieux la lire, que tout ne s'adapte pas.
Mais moi, c'est ce que je me suis dit en regardant le début de la pièce.
Elle n'a pas été créée. J'ai lu que la dernière fois qu'elle avait été créée, c'était en 1963, et depuis jamais. Peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi.
Moi, je me suis dit ça au départ. Léa Drucker parle, je n'y crois pas du tout. Et tout d'un coup, donc, celui qui incarne son mari, Georges, Pierre-François Garel, intervient. Et là, tout d'un coup, il y avait de la vie dans le texte. Donc, je me disais, c'est peut-être un problème d'incarnation, tout simplement.
Mais non, parce Fabienne. Que vous parliez de la scène où Catherine Yégel, et c'est vrai, remarquable, mais c'est une scène à jouer dans une pièce où il ne se passe pas grand-chose, mais c'est ce qui fait la qualité de la pièce aussi. Hein. Une pièce assez classique par un auteur du nouveau roman, prétendu du nouveau roman dont on aurait pu penser qu'il allait révolutionner les conventions théâtrales. Pas du tout, une unité de temps, de lieu, d'action très classique. Mais l'originalité, elle est ailleurs. Alors, avant de revenir à l'originalité, je voulais dire que la scène dont vous parlez, où on voit Catherine Yégel, Léa Drucker, elle attend, elle écoute. et sa manière d'écouter est prodigieuse.
Mais Fabienne,
il n'y a rien de plus difficile au théâtre. Non, je n'ai regardé que Lia Drucker.
Ah
parce qu'à la limite, Catherine Yeagel, elle est remarquable, mais elle fait un numéro. Et c'est écrit comme un numéro d'écriture.
C'est
le terme que tu as employé.
Oui,
Laurent,
c'est vrai.
Un numéro d'actrice.
Ah, mais moi, je
Et
mais
donc.
Ça fait un peu...
Si, je suis désolée. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est que Alain Françon, qui est un metteur en scène très sensible à l'écriture, des textes, il a monté les plus grands classiques, il parvient à nous faire sentir dans l'instant même l'écriture et la sensation que dégage cette écriture. Par exemple, pour évoquer la guerre, pour parler de la mort, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle d'un cheval qui agonise. Pour parler de la mort de la tante, il parle d'un rayon de soleil qui se brise justement sur le lit de la tante mourante. Et tout à coup, on palpite, on sent ces sensations, on les vit avec eux.
Pierre. Je rejoins totalement Fabienne. Je trouve déjà que c'est assez audacieux de monter ce texte aujourd'hui. C'est pas un texte aimable ou c'est un texte assez âpre.
Et dans un théâtre privé.
Et dans un théâtre privé, j'allais le dire, bien sûr, tu me connais.
C'est austère.
Et
c'est
un texte austère. Oui, mais justement, c'est un texte austère, mais qui a ce moment de violence avec Catherine Yeagel et Alain Libault, que je trouve certes discret, mais qui incarne une espèce de déni de cet homme bourgeois,
pourquoi
mais d'une manière absolument sublime. Moi, j'ai rarement vu aussi bien incarner au théâtre cette odeur de rose desséchée, de cette bourgeoisie, cette violence, cette supplication ordinaire de cette femme, Laurent Mauvin. Vigné en parle dans son roman La Maison Vide à la rentrée. Là, on la voit incarnée et nommée dans une pièce de théâtre 60 ans plus tôt d'une manière terrible. Je trouve que la vieillesse éternelle de cette femme qui a été sacrifiée dès sa jeunesse, elle se tient là devant nous. Et moi, je trouve que c'est obscène tellement c'est vrai, quoi. Après, j'ai eu plus de mal avec l'autre couple aussi qui est un peu plus artificiel, un peu moins incarné, je trouve.
Ils sont très bien tous les deux.
La séparation de Claude Simon dans une mise en scène d'Alain Françon, c'est au Théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 4 janvier. On continue avec La guerre n'a pas un visage de femme dans une mise en scène de Julie Deliquet. C'est le troisième prix Nobel de ce programme puisque cette création de Julie Deliquet est adaptée d'un essai de l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, Nobel de littérature en 2015. Julie Deliquet s'appuie sur l'enquête que Svetlana Alexievitch a menée au milieu des années 70 auprès de femmes russes partis combattre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de les faire apparaître et de leur donner la parole successivement, Julie Deliquet prend le parti de réunir ces femmes dans un appartement. Elles sont 9, d'abord assises en ligne, face à l'autrice Svetlana, qui recueille et aiguille leurs témoignages. Alors elles ont été pilotes, tireuses d'élite ou brancardières, et elles racontent la guerre depuis leur expérience de femme. La faim, les cycles menstruels, les viols, les humiliations quand elles rentrent du front. Chacune rebondit sur les propos des autres et le résultat, c'est un récit polyphonique, vibrant et en écho, je crois, avec notre présent Pierre.
Moi, c'est un spectacle qui m'a énormément marqué. Je trouve que la grande réussite, c'est la force théâtrale de cette adaptation. C'est-à-dire qu'on a vu quelquefois Alexievitch monter au théâtre comme une autrice qui écrirait des témoignages ou des documents historiques un peu édifiants. Là, elle montre que c'est avant tout de la matière théâtrale. Pourquoi ? Parce que ces femmes, elles prennent la parole pour la première fois sur la guerre. On les voit en train de penser la guerre. Et donc tout ça est très au présent. Ça fait événement, en fait. Toutes ces paroles font événement. Et je trouve que ce risque d'avoir mis tout ça dans une conversation collective, ça pourrait être très artificiel. Ça ne l'est jamais. C'est constamment organique. Et puis moi, j'ai été fascinée par ce décor. Généralement, on dit qu'un décor qui est mal utilisé, bah, c'est mal. Et là, je trouve que c'est symboliquement très fort parce que c'est un espace domestique.
C'est un appartement communautaire.
Dans lequel la guerre, on ne la voit pas. La guerre, elle a été effacée. Et c'est un espace domestique dans lequel on a confiné, au fond, ces femmes qui n'ont jamais pu parler de la guerre et qui se tiennent devant ce décor et qui vont presque incendier ce décor en parlant. Moi, je trouve que c'est un spectacle vraiment magnifique.
Laurent.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est marrant parce que Julie Deliquet, elle avait donc adapté un documentaire de Frédéric Wiseman, Welfare à Avignon. Et franchement, ça marchait pas, c'était trop esthétique. Enfin, moi, je n'avais pas marché du tout. Et là, elle a trouvé la solution. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la lumière ne s'éteint même pas dans la salle, ou en tout cas, elle est très crue. Et là, c'est toute la force du théâtre, là. Vous avez 10 comédiennes. On est encore en train de s'installer, la lumière est crue sur ce très beau décor de foyer communautaire. Et elles arrivent chacune. On a l'impression qu'on assiste à un groupe de paroles d'alcooliques anonymes, vous voyez. Après, en plein milieu, arrive Svetlana, donc incarnée par Blanche Ripoche, qui s'adresse au public en disant « Bon, ben, on est là, et donc je suis en train de faire un livre et j'aimerais que vous nous racontiez. » Elle va poser d'abord les bonnes questions. Moi, la première question, quand elle l'a posée, je trouvais ça tellement fort quand elle dit... Quel était le point de bascule quand vous avez découvert que la Russie rentrait en guerre? Comment êtes-vous entré dans la guerre? Et là, déjà, vous avez cette femme qui prend en premier la parole en disant « Eh ben, j'ai été déposer ma fille de 3 ans à ma maman et je savais que je la verrais pas pendant 3 ans et je savais que quand je reviendrais, ma fille me reconnaîtrait pas. » Et ça va être que ça, que des propos très justes, très véridiques, chacune à sa façon de bouger. Moi, bon, il y en a une comédienne que j'ai adorée qui s'appelle Oja Liorka, qui incarne la pilote. Elle a une façon de se tenir.
Mais elles sont toutes extraordinaires.
Mais elles sont toutes extraordinaires, mais elles vous racontent des choses mais affreuses. Elles vont même se culpabiliser. Est-ce que j'ai une fille handicapée qui a 10 ans à cause de ça? Et en fait...
Ah bah ce moment-là, c'est le seul moment de silence. Il y a un silence après ce témoignage. Franchement, cette discussion, elle est bouleversante.
C'est 2h30 de discussion. On y croit au sens où c'est du vrai théâtre, quoi.
Mais oui, parce Sandrine. Que... Enfin, moi, je les ai trouvées exceptionnelles. C'est des anciennes combattantes. Elles parlent aussi de toute la partie sur l'engagement. Pourquoi elles y vont? On apprend aussi énormément de choses. Enfin, il y avait quand même 1 million de femmes qui ont été comme elles. Et vraiment, Julie Deliquet, elle pose son sujet, elle pose son propos. Et à un moment donné, elles vont se lever. Et là... Elles font corps, elles discutent d'une manière, avec un naturel incroyable, sans se couper la parole, et en même temps, c'est d'une fluidité démente. Enfin, c'est extrêmement bien construit, c'est bourré d'émotions, à la fois aussi de pudeur. Il y a une diversité de points de vue, par rapport à la guerre, par rapport à l'engagement, par rapport à ce qu'elles ont vécu. Enfin, on ne voit pas passer ce spectacle. On sort, on est vraiment très secoué.
Fabienne, tu souris.
Oui, parce que moi, j'avais vu le spectacle à la création au Printemps des Comédiens à Montpellier et j'avais été troublée d'abord de voir des soldats russes au moment de la guerre en Ukraine. Ça m'avait un peu, sans doute, bêtement troublée. Mais j'ai été assez émerveillée par le travail accompli par Julie Deliquet.
Dans la fluidité des
dans
échanges
la fluidité,
sur leur caractère.
Dans les échanges. C'est vraiment même dans le maintien. Elles sont assises. Et puis, au fur et à mesure de la conversation avec les nanas, elles acquièrent de l'autonomie, de la dignité.
Elles se mettent debout parlent, au propre comme au figuré.
Elles se mettent debout, elles vivent, elles bougent, elles fument. Je trouve que le décor...
Elles chantent.
Le décor aurait pu être mieux exploité parce qu'il est magnifique, ce décor.
C'est justement ça qui est cherché, c'est qu'il ne soit pas exploité.
Et puis, je ne comprends pas le titre non plus, finalement, parce que la guerre n'a pas un visage de femme. Elle prouve qu'on peut être femme et guerrière, j'en viens à mes victimes.
Bah, elle prouve
et
surtout c'était, que la guerre, dans sa pratique, sacrés... reste très masculine,
et
quand
dans
même,
son récit,
quoi qu'on en fasse.
Oui. Mais la guerre, elle a été menée par des femmes très aussi, rare, et les soldats staliniennes, c'était pas les plus gentils. Hein. À Berlin, elles ont fait c'était comme les capots d'Auschwitz, hein, c'était des durs. Donc, je comprends pas bien ça, c'est pas bien expliqué. Quoi qu'on sent quand même qu'elles sont fascinées aussi par l'engagement pour leur patrie, et pour ça, elles sont prêtes à tout. Et il y a une cruauté qui est là.
La guerre n'a pas un visage de femme de Julie Deliquet. C'est au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis jusqu'au 17 octobre, avant une grande tournée au Théâtre National de Nice les 8 et 9 janvier, à la Maison de la Culture de Grenoble les 14 et 15 janvier. Suivront Lyon, Saint-Étienne, Lorient, etc. Il y a des dates dans toute la France jusqu'en mai 2026. On termine avec Made in France, pièce écrite et mise en scène par Samuel Valency et Paul-Éloi Forget. Émile est un détenu en semi-liberté, bracelet électronique à la cheville. Il s'apprête à travailler comme homme de ménage dans une aciérie. Pour son tout premier jour de boulot, une série de quiproquos l'amène à entrer successivement dans le rôle du patron, qui annonce aux employés leur licenciement pour cause de délocalisation de l'usine. Et ensuite, Émile est propulsé représentant syndical qui tente de tout sauver. La pièce met en scène le cynisme des uns et des autres, patrons, syndicalistes, ministres, sbires de ministres et repreneurs. Le tout est mené dans un rythme de vaudeville effréné, avec panneaux pivotants et batteries amovibles. Alors quand je dis batterie, je veux parler de l'instrument. La batterie figure les machines de l'usine et une musicienne vient régulièrement la faire sonner sur scène. J'étais au Théâtre de la Renaissance pour la première et c'était déjà un triomphe. Sandrine.
Bah moi, je trouve que c'est sacrément culotté de faire une comédie sur la problématique de la délocalisation. Sur le papier, c'est quand même pas évident. Et que je trouve qu'avec 4 pans noirs et une batterie, qu'est-ce qu'on peut en raconter des choses ? Alors, au début, moi, j'ai été un petit peu décontenancée. Enfin, je me disais, mais où on va? Ça démarre un peu comme une pièce de boulevard. Je trouve que les quiproquos sont un peu invraisemblables. Justement, il est pris pour celui qui ne l'est pas. Enfin, on y croit très moyennement. Et en fait, plus la pièce avance, et plus elle est intéressante, et plus elle est intelligente. Et je trouve qu'il y a des idées. Il ne faut pas tout dévoiler, parce qu'il y a une idée sur, justement, ce que fabrique l'entreprise qui va être délocalisée, qui est vraiment une idée géniale, qui raconte très bien l'effet papillon pour moi. Et effectivement, les personnages sont grossis, les traits de caractère sont grossis, mais tout le monde en prend pour son grade. Ça met en lumière des destins individuels face à l'intérêt collectif. Moi, le seul bémol que je mets, c'est que je me suis demandé à la fin, mais finalement, quel sentiment ça donne. On a l'impression que c'est un peu, tout est pourri, quoi, dans le monde, au royaume politico-économique et syndical. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de voter ou pas? Alors, le metteur en scène s'en défend fortement, mais vraiment, je trouve que c'est une comédie très culottée par son sujet et par sa manière de l'aborder.
Laurent.
Le moment le plus drôle, c'est au milieu de la pièce. Ça ressemble un peu à un film de Francis Weber où il y a un quiproquo, on ne sait plus très bien qui est le détenu, qui est le PDG, etc. Après, moi, mais je ne savais pas s'il fallait rire parce que, mon Dieu, parler de délocalisation. Alors, j'adore tout le système des tréteaux, j'adore les changements de personnages à vue, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui joue Nadia, une ouvrière, et puis après elle change de costume et elle se transforme en la conseillère du ministre. Mais je trouve que d'abord la classe ouvrière est montrée de façon assez affreuse quand même, la déléguée du personnel, pardon, et je trouve que
tout
ça...
Le monde,
non mais ils sont tous affreux.
Ah non, c'est vraiment très caricatural, et après... Quoi, c'est une pièce politique où on enfonce des portes ouvertes pour le coup. Donc j'ai trouvé ça vraiment démonstratif et gênant.
Ah non, pas
moi. Moi j'ai bien aimé. De toute façon, ce que font Samuel Valency et Paul-Éloi Forget, là, ils avaient déjà fait Coupure, une précédente pièce sur l'installation d'une éolienne à la campagne, et ils se mettent là. C'est la réindustrialisation qu'on nous vante aujourd'hui, qui passe à sac parce qu'ils nous montrent comment ça se passe réellement et ça ne se passe pas.
C'est une caricature, quoi, quand même.
Non, ça décile le regard. De toute façon, ça prétend être une farce d'agit-propre. Comme pouvait le faire Brecht à ses débuts,
carrément.
Ou Dario Fo, oui, ça pourrait être joué avec pas grand-chose, comme le disait Sandrine. Et moi, je trouve ça culotté. En plus, je salue une initiative qu'ils ont prise, c'est que toutes les semaines, à la fin du spectacle, ils organisent des débats rencontres. Politiques.
Mais oui, mais ils mélangent tout, du coup.
Mais non ils mélangent pas tout. Ils réussissent les citoyens en riant.
C'est pas une comédie, voilà.
Il faut qu'on termine,
je vais pas revenir sur le fond. Pour moi, un épisode de Capitaine Marlowe, c'est révolutionnaire à côté de ce spectacle. Non, mais je vais parler de la forme. Pour moi, c'est du théâtre Playmobil.
C'est moins rapide.
C'est une histoire illustrée avec des acteurs et des actrices qui sont traités comme des figurines. C'est en avant les histoires.
Il y a plusieurs formes de théâtre.
On pense
Pierre.
Que le théâtre, c'est l'efficacité, c'est le rythme, mais il n'y a
et
aucune
ça peut l'être
vie.
Aussi.
Il n'y a aucune vie, il n'y a aucun vivant dans ce spectacle. Non, la lumière s'allume, un acteur s'adresse à la salle.
Mais
tout de suite,
faux.
On est dans la salle, on ne répond pas.
Mais
c'est tout le temps comme ça. C'est un spectacle qui a peur du vide, qui a peur du silence. Ce n'est pas du théâtre pour
ça
moi.
Va vite.
C'est surtout
voilà. Ça va vite.
C'est de tout façon un peu.
Ce n'est pas du théâtre. Non.
Mais ça et Mélione Faux. Made in France. Je vais finir par siffler en fait.
Il y a une batterie. Made vraiment sûr qu'on ne s'ennuie.
Bravo,
Made in France. Made in France de Samuel Valency et Paul-Éloi Forget, c'est au Théâtre de la Renaissance à Paris avant une tournée en 2026 au Théâtre du Troisième Type à Saint-Denis, à la scène culturelle d'Alfortville en janvier, au Théâtre Simone Signoret de Conflans-Sainte-Honorine et en février. Il y a bien d'autres dates à suivre, virgule. Place à vos coups de cœur pour élargir le programme, mais je vais retirer le mien parce qu'il va nous manquer du temps. On va commencer avec toi, Pierre. Qu'est-ce que tu as choisi ?
Eh bien, le spectacle d'une artiste brésilienne qui s'appelle Carolina Bianchi, qui est pour moi l'une des artistes les plus importantes et fascinantes de notre époque. Son spectacle s'appelle La Fraternité, The Brotherhood. Et il y a aussi le texte qui est publié au Célitaire Intempestif. C'est un spectacle qui creuse beaucoup de questions, qui n'est pas du tout démonstratif. Notamment celle-ci, est-ce qu'on peut faire de la violence au théâtre en sortant de la violence telle qu'elle a été faite par les artistes masculins. C'est un spectacle grandiose qui se donnera notamment au Célestin à Lyon, au Maillon à Strasbourg et au Festival d'automne à Paris à la Grande Halle de la Villette en novembre.
Merci. Sandrine, c'est à toi.
Alors, moi, c'est une comédie musicale, La Petite Boutique des Horreurs, qui est jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça avait été joué il y a 3 ans à l'Opéra Comique. C'est une reprise et ils ont bien fait de la reprendre. C'est un vrai bonheur. C'est 16 comédiens et danseurs, 4 musiciens. C'est une très célèbre comédie musicale outre-Atlantique. Hein.
Conçue
par,
Valérie,
Le Sœur, Christian Heck, qui s'en donne à cœur joie. C'est une aventure sanglante avec une histoire d'un jeune fleuriste naïf qui cultive une plante qui va s'avérer très, très carnivore. Ça aussi, entre le grand guignol, la romance, la revanche de la nature, c'est réjouissant, c'est gore, les personnages sont dingues, les images burlesques inoubliables.
Et avec
vraiment,
des géniales marionnettes.
C'est un divertissement que je vous conseille vivement.
La Petite Boutique des Horreurs de Le Sœur et Heck, donc Valérie Le Sœur et Christian Heck, jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Fabienne.
Moi, c'est Fantôme de Philippe Mignana au Théâtre de la Ville. Fantôme, c'est la rencontre de deux vieux amis qui revisitent leur passé. Les deux amis en question sont Laurent Charpentier et Hugues Kester. Et ils revisitent leur passé à partir des photos de famille. Ils racontent leur mère, leur enfance, leurs écorchures. Et c'est bouleversant parce que ça nous renvoie à tous les fantômes de notre histoire personnelle dans une écriture magnifique qui est celle de Philippe Mignana, qui c'est faire de l'existence la plus banale et la plus ordinaire une sorte de légende.
Donc c'est ça, c'est au Fantôme, c'est au Théâtre de la Ville jusqu'au 16 octobre.
Voilà.
Laurent, pour finir.
Ça s'appelle Dolorès, c'est une pièce de Yann Guillon et Stéphane Laporte qui a été créée off Avignon il y a 2 ans. Mise en scène par Virginie Lemoine, j'aime beaucoup la douceur de ce que fait Virginie Lemoine, avec Olivier Citruc et François Ferroletto. Une sidérante histoire vraie durant la Résistance de deux frères et sœurs qui se lancent dans le flamenco lorsqu'ils fréquentent des gitans de leur ville et que leur mère envoie dans une grande école de danse, qui partent en Allemagne pour faire carrière jusqu'à que la guerre arrive. La Pologne est envahie, ils sont envoyés au ghetto de Varsovie et puis là, ben, l'un va entrer dans la Résistance. Alors, remarquable interprétation des deux rôles masculins, notamment François Ferroletto, qui incarne plusieurs personnages, un barman, un directeur de cabaret, un chef nazi. Et en fait, on se demande jusqu'à la fin pourquoi la pièce s'intitule Dolorès. Je ne vous dirai pas pourquoi.
En tout cas, elle se joue au Théâtre La Bruyère jusqu'au 31 décembre. Fabienne Pascaud, Pierre Lesquelen, Sandrine Blanchard, Laurent Vallière, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. Les prochains enregistrements auront lieu le 30 octobre au Théâtre de l'Alliance Française, où nous débattrons de l'actualité du cinéma. Et le samedi 8 novembre, nous serons à la Foire du Livre de Brive pour vous entretenir, évidemment, de l'actualité littéraire. Stéphane Le Guenec réalise Le Masque et c'était avec Delphine Baudet, Romain Lenoir et Nicolas Depagraf. Ilinka Negulesco coprogramme l'émission et la prépare avec l'aide de Zora Desgoutte. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux débats sur France Inter, évidemment.